un podcast France Culture.
Deuxième jour de notre série sur les dernières économies communistes du monde. Après avoir évoqué l'effondrement de l'économie cubaine et la timide libéralisation de l'île, cap sur un pays marxiste qui, à l'image de la Chine, a embrassé le modèle capitaliste, le Vietnam. Comment ce pays pauvre, marqué par 30 ans de guerre, s'est-il transformé en paradis des affaires? Depuis 35 ans, hors Covid, le PIB vietnamien n'est jamais passé en dessous de la barre des 5%. Une réussite fulgurante, fondée sur un savant mélange d'ultralibéralisme et de planification. Vietnam, capitalisme, Nao, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons invité Étienne Espagne, économiste du climat à la Banque mondiale, co-auteur avec Michel Alietta de cet ouvrage « Pour une écologie politique au-delà du capitalocène » paru chez Odile Jacob en février dernier. Également avec nous, Emmanuel Panier, anthropologue à l'Institut de recherche pour le développement et au Muséum d'histoire naturelle. Une émission préparée par Léa Sabourin, Tina Young, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Mercredi 30 avril 1975, 12h, 14 minutes. Après la folie et le désespoir, un inexplicable silence s'est abattu sur Saïgon. Hors de toute considération politique, la marche vers le palais fut ce qu'il faut bien appeler une marche triomphale. C'est en moins d'une heure que les forces communistes ont investi Saïgon sans tirer un coup de feu. Ils se battaient depuis des années pour le Sud, le cours de l'histoire a fait qu'ils ont pu entrer dans Saïgon sans que le sang ne coule. Malgré la reddition sans condition, il demeure impossible de dire que le général Duong Van Minh ait bradé le Sud-Vietnam. Homme du dernier recours, il l'était depuis 10 ans, et depuis le retrait américain, tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de dernier recours au Sud-Vietnam.
Bonjour Étienne Espagne et Emmanuel Panier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. 30 avril 1975, Saïgon tombe aux mains des forces communistes, le Vietnam est réunifié. 11 ans plus tard, ce pays, ravagé par 30 ans de guerre, décide de s'engager sur la voie de l'économie de marché. Pourquoi ce choix, Étienne Espagne ?
Alors effectivement, c'est un document très intéressant que vous avez passé à l'instant. Et c'est un moment charnière, évidemment. On voit que le Vietnam sort de 30 ans de guerre de décolonisation, d'abord contre la France, puis contre les Américains. Et puis, Ho Chi Minh s'était appuyé sur l'idéologie communiste pour parvenir à mobiliser la population vietnamienne dans ce combat de décolonisation, qui aboutit en 75. Et évidemment, en 75, l'économie vietnamienne là, est complètement exsangue, avec une pauvreté assez extrême. Et elle connaît 10 ans de difficultés immenses qui ne sont pas améliorées par les politiques de réallocation de terres et des politiques de collectivisation qui sont perçues comme brutales. Donc, à partir de la mort du leader du Parti communiste en 85, il y a un changement politique qui se fait. Et on sait qu'il y a le même qui va se produire aussi en Chine à peu près à la même période. Et qui est un choix d'ouverture progressive de l'économie vietnamienne. Et à partir de ça, on a l'histoire un peu d'un succès que vous avez évoqué, une croissance économique extrêmement forte pendant toutes les décennies qui suivent, donc de la moitié des années 80 jusqu'à aujourd'hui, plus de 5-6% de croissance par an.
Oui, une croissance
et puis une diversification de l'économie de plus en plus forte, une sortie de l'extrême pauvreté.
On va parler cette diversification, de cette sortie de la pauvreté, mais peut-être d'abord Emmanuel Panier sur cette date de 1986, date de l'ouverture du Vietnam à l'économie de marché. C'est un moment où ce pays fait le constat de l'échec d'un modèle d'économie centralisé, planifié.
Oui, alors souvent, c'est la date de 1986, hein, c'était le sixième congrès du Parti communiste comme la date du Doimoi, donc de ce renouveau, de cette nouvelle politique de marché à orientation socialiste. Mais en fait, il faut aussi comprendre qu'il y avait des changements qui avaient été opérés avant cette date-là, au cours de la fin des années 70. Parce qu'il faut bien comprendre la situation, en fait, à cette époque-là. On était dans un système, en fait, de collectivisation des moyens de production. Ça veut dire que s'il y avait des coopératives agricoles à la campagne dans lesquelles les paysans travaillaient, c'était les compagnies publiques dans lesquelles, dans les villes aussi, les gens travaillaient. Et donc, il y avait un contrôle étatique de la production, des prix, de la distribution. Il n'y avait pas de marché libre. Les gens étaient rémunérés en points de travail. Ils se ravitaillaient dans des magasins d'État. Et en fait, à cette époque-là, effectivement, il y a... une situation très critique, parce que c'est l'échec du système collectiviste. En fait, les gens se désintéressent de plus en plus des coopératives. Le niveau de production diminue. Il y a des famines réelles dans les villes, dans les campagnes. On est aussi dans une situation externe où il y a le désengagement de l'URSS. La Chine a commencé ses réformes de son côté. Donc, c'est la fin de l'aide étrangère. Donc, en fait, le Vietnam est dans une situation de crise. Et localement, il y a déjà des petites expériences, un peu de privatisation qui se mettent en œuvre dans les campagnes. Il y a aussi un marché noir, notamment de produits venus du Sud, qui a été ouvert pendant plus longtemps qui viennent. Et donc, face à ce constat général, le Parti communiste et l'État est quand même bien obligé de changer sa politique pour ne pas perdre complètement sa légitimité, mais aussi pour le peuple qui a faim. Et donc voilà, faut bien comprendre que 86, c'est la date officielle et que ça a commencé avant, dans ce contexte à la fois interne de crise et externe, où ils étaient un petit peu isolés et sans aide extérieure.
Et alors, en quoi consistent concrètement ces réformes de 1986, Étienne Espagne? Comment le Vietnam va-t-il réussir à s'insérer dans le commerce mondial?
Progressivement, par cette ouverture que Emmanuel mentionne, et qui commence par le secteur de l'agriculture, la production agricole, en permettant aux agriculteurs de vendre eux-mêmes une partie de leur production. Et progressivement ensuite, la situation des années 90 s'améliore globalement, et le Vietnam a une stratégie externe qui va être toujours de s'insérer dans les dynamiques de la globalisation, et donc de trouver le meilleur endroit, la meilleure stratégie sectorielle pour bénéficier des dynamiques globales, bien sûr des dynamiques de la Chine, qui va devenir le partenaire essentiel du Vietnam, et elle l'est aujourd'hui encore, avec 20% des exportations du Vietnam qui vont vers la Chine.
Oui, 40% des importations. On va parler de la Chine. Étienne Espagne, pardon de vous couper comme vous êtes à distance, mais ce qui est vraiment fascinant avec le modèle vietnamien, c'est que cette réussite, elle est fulgurante, vraiment très rapidement, en quelques années, la fin des années 80, dans les années 90, on voit que l'agriculture, la part de l'agriculture dans le PIB recule au profit de l'industrie et des services. Tout ça se déroule véritablement en quelques années, Étienne Espagne?
Oui, ça se déroule en quelques années. Je pense que, comme le mentionne Emmanuel juste avant, on a une période des années 80 qui est extrêmement difficile, qui suscite ce changement politique. Mais la période des années 90, ensuite, marque ce mouvement de globalisation. Il y a des opportunités d'insertion du Vietnam dans ces chaînes de valeur mondiales qui commencent à s'étendre beaucoup plus largement, qui commencent à chercher des pays à bien former et à bas revenus, donc une caractéristique du Vietnam à cette époque-là. Et donc le Vietnam bénéficie de cet élan. Il en bénéficie en devenant un peu une espèce de plateforme de produits qui vont être importés, assemblés au Vietnam et rapidement exportés pour être vendus ailleurs. Donc c'est une des explications de cette croissance rapide de l'industrie des services. Mais en réalité, si on regarde le détail, effectivement, il y a un risque dans cette stratégie-là, c'est que tous ces investissements directs étrangers qui vont venir dans les années 90 et 2000 au Vietnam peuvent aussi très rapidement se réorienter ailleurs suivant les circonstances. Donc c'est une des fragilités aussi du Vietnam, de la croissance du Vietnam.
Coca-Cola, whisky, champagne, les étalages de Saigon n'ont rien à envier au marché de Taïwan ou de Bangkok. Tout s'achète, tout se vend à des prix incroyablement compétitifs. Depuis 2 ans, tous les moyens sont bons pour relancer l'économie. Aujourd'hui, les résultats de cette nouvelle politique commencent à se faire sentir. Des marchandises du monde entier, mais surtout d'Asie. Soudain, Saigon est devenu un laboratoire capitaliste de pointe et les hommes d'affaires affluent. 100 projets en route, 300 à l'étude. Les étrangers apportent les capitaux, les Vietnamiens accordent les facilités financières. Mais surtout, la main-d'œuvre est la moins chère d'Asie.
Voilà une archive de France 2 du 16 avril 1990. Comment est-ce qu'on peut définir ce modèle économique vietnamien, Étienne Espagne? Les Vietnamiens parlent d'une économie de marché à orientation socialiste. Qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, ça veut dire que c'est cette expérimentation assez unique qui, dans des circonstances un petit peu différentes, a lieu en même temps en Chine. Alors la Chine, c'est évidemment un pays d'une taille complètement différente, mais est aussi expérimenté au Vietnam, de mélange de planification et d'ouverture au marché. On pense que on peut pas vraiment définir non plus le système vietnamien comme un système capitaliste. On reste dans un système de partis uniques. On reste dans un système où le gouvernement et le parti ont un contrôle sur la dynamique des affaires, s'inscrivent dans une orientation de long terme et essaient d'avoir cette stratégie et cette vision à long terme, mais en même temps une urgence à attirer les investissements directs étrangers, à s'insérer dans cette globalisation naissante dans les années 90, et donc à créer des conditions favorables pour cette ouverture.
Emmanuel Panier, vous décririez le système économique vietnamien comme capitaliste?
Alors, récemment, dans une conférence organisée justement à Ho Chi Minh Ville, où on était avec Étienne Espagne, j'avais un papier. C'était une conférence sur les capitalismes asiatiques. Et donc, j'avais un papier dans le titre qui parlait de l'économie capitaliste vietnamienne et de sa dimension hybride. Et en fait, ça n'a pas été très bien reçu. Le titre a dû être changé parce que le mot capitaliste n'était pas accepté ni acceptable par les autorités pour définir leur système. Alors, moi, je pense qu'il y a effectivement des éléments de capitalisme, hein, tels que Étienne Espagne a commencé à en citer quelques-uns. Mais c'est vrai qu'on parle souvent d'un régime socio-économique hybride où il y a différentes composantes. Donc il y a des composantes qu'on pourrait qualifier de communistes, des composantes qui relèvent du capitalisme. Et c'est vrai qu'en tant qu'anthropologue, moi je m'intéresse aussi au substrat social et économique qui préexiste à ces formations économiques-là, et qui sont une économie locale, qui est fondée sur des rapports sociaux interpersonnels. Et donc, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'on ne peut pas qualifier cette économie-là d'une seule manière, et de voir un petit peu comment ces différents régimes socio-économiques s'articulent, se mélangent, se juxtaposent.
Mais la dimension capitaliste apparaît de façon assez évidente, cette ouverture aux investisseurs étrangers, le fait que le Vietnam soit devenu ainsi une autre usine du monde. En revanche, que reste-t-il de communiste dans ce système économique vietnamien, Emmanuel Panier? C'est moins évident.
Ouais, alors, on peut. Alors après, il y aurait peut-être une discussion théorique, mais qu'on va pas mener là. Ou qu'est-ce que ça veut dire le communisme mais déjà, la part de l'État dans la production économique. Alors, j'ai pas retrouvé les chiffres les plus récents, mais reste prépondérante. Hein, jusque dans les années 2010, il y avait 37% du PIB qui venait de la production économique de compagnies étatiques. Et ensuite, l'État continue aussi de contrôler les secteurs clés de l'économie, les ressources naturelles, l'énergie, les banques, une partie de l'aviation, l'industrie pétrolière, les télécommunications. Tout ça sont des grandes entreprises aux mains de l'État et qui sont des entreprises clés de l'économie. Après, il y a encore la planification, donc ça qui est un mode de fonctionnement caractéristique des économies capitalistes. Sur 5 ans, il va y avoir une planification précise dans les différents secteurs sur les stratégies. Ensuite, il y a un élément aussi très très significatif, c'est que la terre, en tout cas la terre de production, appartient entièrement à l'État. Donc les parcelles sont confiées aux paysans, mais en fait, en dernier ressort, c'est l'État qui est le propriétaire de la terre. On a aussi un parti unique qui a un rôle hégémonique dans la direction, l'orientation du pays, et qui a le monopole hein, du Parti communiste, est inscrit dans la Constitution. Et l'idéologie reste quand même, en tout cas dans les discours, et telle qu'il s'est enseigné à l'école et à l'université, une idéologie marxiste-léniniste, avec aussi aussi la pensée d'Ho Chi Minh, qui reste un pilier quand même de la gouvernance et l'éducation. Donc je dirais que ça, c'est quand même certains éléments qu'on pourrait qualifier de communistes et qui restent prégnants dans l'économie vietnamienne.
Vous avez parlé d'un régime socio-économique hybride qui ressemble à ce que l'on peut trouver en Chine. Quelle différence, justement, Étienne Espagne, entre le modèle vietnamien et le modèle chinois ?
C'est une bonne question. Je voulais juste revenir très brièvement sur ce qu'a dit Emmanuel et sur la question du caractère capitaliste ou non de l'économie vietnamienne. En réalité, c'est une question assez profonde sur savoir quel pays peut être qualifié réellement de capitaliste. Et si on définit le capitalisme comme un ensemble de relations sociales très spécifiques, en réalité, l'Angleterre et la Hollande peuvent être qualifiés de pays à proprement capitalistes. Donc, tous les autres ont été dans tous les autres pays du monde, à commencer bien sûr par d'abord les pays européens, les États-Unis, puis ensuite le reste du monde, ont été en réalité dans des situations d'adoption d'un modèle par la force des circonstances. Et donc le modèle capitaliste est venu s'intégrer à ces pays-là sur un substrat de relations sociales qui était complètement différente. Et donc pour le Vietnam, c'est un petit peu ça aussi, je pense. C'est-à-dire que le capitalisme, bien sûr, c'est imposé dans ses formes de relations économiques au Vietnam, mais il s'est imposé sur un substrat de relations, de type de relations sociales très spécifique à l'Asie du Sud-Est et au Vietnam aussi en particulier.
Et en un sens, le Vietnam est encore plus capitaliste que la Chine, Étienne Espagne, dans le sens où les investissements étrangers sont soumis à moins de restrictions du côté du Vietnam que ce qu'on peut observer en Chine.
Alors oui, et pour des raisons à nouveau, je pense, stratégiques d'insertion du Vietnam dans cette globalisation, c'est-à-dire que notamment encore plus après le Covid et pendant le Covid et après le Covid, il y a eu cette stratégie du Vietnam d'essayer d'attirer tous les investissements directs, enfin une partie en tout cas des investissements directs étrangers qui allaient en Chine, mais étaient confrontés à la politique de zéro Covid de la Chine, et ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une vague encore plus forte d'investissements directs étrangers durant la période Covid. Et une autre caractéristique, par exemple, c'est le faible niveau de sécurité sociale en Chine, au Vietnam, qui est aussi une caractéristique propre à toute la région de l'Asie du Sud-Est, qui vient en réalité de ces relations interpersonnelles très fortes qui existent, ces réseaux de solidarité à l'échelle de la famille très élargie qui existent. Donc c'est pas parce qu'il y a une faible sécurité sociale qu'il y a un faible niveau de solidarité, mais cette solidarité s'exprime dans des circuits informels.
La relation entre la Chine et le Vietnam est essentielle pour comprendre cette réussite fulgurante du Vietnam, puisqu'aujourd'hui on peut dire que c'est un pays qui est le grand gagnant de la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, Étienne Espagne.
Oui, le Vietnam a tout juste cette stratégie d'entre-deux. On voyait, par exemple, sous la présidence Trump, quand le Vietnam a proposé d'héberger cette rencontre absolument incroyable entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donc ça s'est passé à Hanoï. Il y a eu cette diplomatie tout à fait flexible, pragmatique, d'espèce de neutralité, de non-alignement qui permet de bénéficier au mieux des opportunités pour un pays qui se considère comme petit face à la globalisation. En réalité, c'est un pays de 100 millions d'habitants quand même. Et c'est cette stratégie-là qui, face aux grands frères chinois, pour l'instant réussit plutôt bien au Vietnam.
Quels sont les avantages justement du Vietnam pour les entreprises étrangères, peut-être par rapport à la Chine, Emmanuel Panier ?
Alors ça, sur les avantages des entreprises par rapport à la Chine, ça va être compliqué. Je ne maîtrise pas suffisamment le système chinois pour pouvoir y répondre. Mais peut-être plus, je peux rebondir sur deux aspects que vous avez évoqués. Bon, effectivement, l'insertion du Vietnam dans la globalisation et sur les marchés internationaux, 1995 rentre dans l'ASEAN, 2007 c'est l'OMC, récemment en 2019 c'est les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Et donc là, on voit qu'il y a une politique. Alors, on parlait de capitalisme, on peut aussi parler de libéralisme, hein, de baisse des droits de douane, d'accès au marché public, d'ouverture des frontières commerciales, de privatisation aussi. Beaucoup de compagnies publiques ont été privatisées. Il y a quand même une dérégulation généralisée. Donc là, c'est vrai qu'on est dans des composantes clairement capitalistes et même libérales. Après, si vous évoquiez les rapports avec la Chine, alors c'est vrai que moi, je travaille beaucoup dans le nord du Vietnam, notamment dans des zones frontalières avec la Chine. Et là, on se rend compte de l'importance des échanges avec la Chine dans les deux sens, notamment pour les populations locales, qui sont souvent des groupes qu'on appelle au Vietnam des minorités ethniques, en fait, qui sont majoritaires dans leur contrée, mais qui sont minoritaires à l'échelle nationale, et qui sont en fait à cheval entre la Chine et le Vietnam. Et là, les échanges sont intenses. Et récemment, il y a une politique d'essayer de formaliser, en fait, tous ces échanges qui étaient très informels, et donc de fermer un petit peu les frontières qui étaient très poreuses pour pouvoir contrôler les flux commerciaux. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, on voit l'importance de la Chine et des échanges avec la Chine dans les échanges commerciaux.
Le Vietnam qui effectivement multiplie les accords commerciaux, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam est entré en vigueur le 1er août 2020.
It is of the utmost importance to stress.
Il est important de souligner la valeur économique de cet accord, qui va dynamiser à la fois l'économie du Vietnam et celle de l'Union européenne.
It represents a great opportunity.
Il s'agit d'une formidable opportunité pour les exportateurs et les investisseurs européens. Cela éliminera 99% des droits de douane d'ici 7 ans et aboutira à des exportations supplémentaires dans les deux directions. Le Vietnam a une économie active avec plus de 90 millions de consommateurs, une classe moyenne en pleine croissance et une main-d'œuvre jeune et dynamique. Le pays est ouvert sur le monde et adopte des normes modernes.
Voilà le député européen Geert Bourgeois au Parlement européen à Strasbourg en février 2020. C'est notamment pour s'affranchir de sa dépendance à l'égard de la Chine que le Vietnam multiplie les accords de libre-échange, Étienne Espagne.
Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que le Vietnam, structurellement, conserve un très fort lien, une très forte dépendance à la Chine. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines encore, il a rehaussé le niveau de formel de ses relations diplomatiques avec la Chine. Donc c'est un jeu d'équilibre en réalité permanent qui se joue. Dans le reportage qui est mentionné, qui est sur cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, c'est un aspect, disons, d'un mouvement un petit peu de remodelage géopolitique qui est en train de se produire avec ces fameuses chaînes de valeur de la grande période de globalisation qui sont en train de se modifier pour refléter davantage les fractures géopolitiques mondiales. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait le friendshoring, pour utiliser un anglicisme, c'est-à-dire on va essayer maintenant stratégiquement d'avoir des chaînes de valeur qui sont dans des pays qu'on considère comme amis ou potentiels alliés. Donc je pense que cet accord de libre-échange avec le Vietnam fait partie de cette stratégie du point de vue de l'Union européenne, qui est un peu plus une stratégie qui va vers aussi trouver des alternatives à ce commerce très intense avec la Chine et cette dépendance de l'Union européenne elle-même avec la Chine.
Mais là où la Corée du Sud, Singapour et le Japon forment aujourd'hui le trio de tête, je crois, des investisseurs étrangers au Vietnam, le Vietnam cherche à attirer davantage les investisseurs américains et européens, Étienne Espagne, aujourd'hui ?
Oui, alors les États-Unis restent un partenaire important, l'Union européenne aussi, la France, à titre de pays individuel, les beaucoup moins maintenant sur le plan commercial. Cette stratégie de diversification s'exprime dans tous les secteurs. Et ce qui nous conduit peut-être aussi à aborder la question du positionnement du Vietnam sur l'enjeu climatique.
On va l'aborder un petit peu plus tard, hein, parce que c'est effectivement un élément important, hein, de voir qu'aujourd'hui cette croissance économique du Vietnam se fait au prix d'une dégradation de l'environnement et que le Vietnam n'a pas d'autre choix que d'accélérer sa transition. Mais peut-être pour bien comprendre cette dynamique, hein, qui apparaît aujourd'hui, Étienne Espagne, cette volonté du Vietnam, non pas de remplacer la Chine, puisque le Vietnam n'en a pas les moyens, mais en tout cas de se présenter comme une alternative crédible, parce qu'aujourd'hui c'est en effet plus intéressant pour toute une série de raisons pour un certain nombre d'entreprises étrangères de s'implanter au Vietnam plutôt qu'en Chine.
Et oui, sans doute. Alors, il y a, il y a plusieurs raisons, bien sûr. Donc, il y a cette question de la tension entre la Chine et le bloc occidental qui crée des stratégies de contournement, d'évitement, et donc le Vietnam joue cette carte-là. En essayant de maintenir cette position d'équilibre. En même temps, de l'autre côté, on peut considérer que le Vietnam ne pourra pas s'écarter complètement de cette dépendance à la Chine. Donc c'est
parce que le Vietnam a besoin des approvisionnements chinois, notamment.
Le Vietnam a besoin structurellement des approvisionnements chinois, c'est 30% de ses exportations, 30% de ses importations qui dépendent de la Chine, et ça ne peut pas se modifier de manière structurelle juste pour des raisons purement géographiques.
Oui, mais il y a quand même des arguments, hein, du côté du Vietnam. Le fait que ce pays offre de l'électricité 25% moins cher qu'en Chine, des salaires plus bas, une fiscalité très avantageuse, tout cela séduit quand même de plus en plus les entreprises étrangères, Étienne Espagne.
Ça séduit sans doute les entreprises étrangères, de même que, en tout cas jusqu'à une période récente, une stabilité politique et une stabilité des relations avec l'Occident qui était plus rassurante peut-être que ce que pouvait faire la Chine, et notamment un petit peu la période Covid qui a été une période dans laquelle qui a pu inscrire des doutes du point de vue des investisseurs étrangers.
Ce qui a porté aussi cette croissance vietnamienne, Emmanuel Panier, je me tourne vers l'anthropologue que vous êtes, ce sont aussi les investissements qui ont été réalisés dans l'éducation, dans les infrastructures. C'est un pays, le Vietnam, qui s'est doté d'un réseau Internet facilement accessible, peu coûteux. Tout cela a permis, a facilité ce dynamisme économique.
Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, on évoquait peut-être des composantes qu'on pouvait qualifier de communistes. Et c'est vrai que au Vietnam, par exemple, le système d'électrification est vraiment généralisé. Hein. Quand on va dans des zones reculées, profondes, il y a l'électricité partout. Il y a des centres de santé aussi dans toutes les communes rurales du Vietnam. L'éducation, c'est la même chose. Ils ont développé un système d'éducation généralisé. Hein. Le taux d'alphabétisation au Vietnam est très élevé depuis très longtemps. Et c'est vrai que cette politique de développement des infrastructures, de la santé, de l'éducation fait à mon avis clairement partie des points forts du Vietnam, même si on peut noter depuis quand même quelques années une libéralisation, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation. Alors évidemment, hein, il y a beaucoup d'hôpitaux publics, il y a beaucoup d'écoles publiques, mais de plus en plus finalement les coûts de ces domaines-là, de ces secteurs-là, reviennent de plus en plus aux familles, alors soit par des participations officielles, mais aussi il y a tout un système un peu plus informel où il faut participer aux soins de santé ou d'éducation. Pour vous donner un exemple très simple, quand on va à l'hôpital aujourd'hui, il y a des très bons hôpitaux au Vietnam, des hôpitaux publics de grande réputation, mais de plus en plus aussi d'hôpitaux privés. Mais pour accéder à des soins de qualité, il faut... tout le monde a une assurance sociale, il y a un système de sécurité sociale, mais ça ne suffit pas. Et donc, il y a un système où il faut remercier les médecins, remercier le personnel de l'hôpital par des systèmes d'enveloppe. Si on veut qu'un accouchement se passe bien, il y a aussi ce type de transaction. Après une opération, il faut aussi remercier le médecin avant. Et dans les écoles, il y a un fonctionnement assez similaire. Hein. Alors, c'est des cadeaux. Hein. On n'est pas dans ce qu'on pourrait qualifier directement de corruption. Il faut faire attention au jugement moral. mais en tout cas, il y a beaucoup de cadeaux qui circulent, et notamment sous forme d'argent, et qui permet aussi de financer la santé et l'éducation. Voilà.
Vous avez évoqué le terme de corruption. C'est aujourd'hui l'un des mots qui touche le Vietnam. On va en parler juste après ça. Trung thành hơn, khỏe mạnh hơn, trả lại ơn người kêu mang chính mình. Mình không cố định một nơi bất kỳ, nên anh rời đi điều tất nhiên. Ừ anh sai thì anh sai, nhưng mà anh sai vì anh là chính mình. Nhiều khi thất tình để không mất mình, thế nhưng nhiều khi anh ước mình xin lỗi trước, để bình an lướt qua thời gian, để mình không bất ngờ dù anh vẫn sợ phải mất em mà chưa biết em. Mà anh không chắc mình làm được gì khác, dù sao anh vẫn chỉ là anh. Một dòng sông hối hận trào tuôn bất tận, để mất nhau rồi xin lỗi sau. Xin Loi, une chanson de l'artiste vietnamien Tang sur France Culture. D'entendez-vous l'écho? Vietnam, capitalisme now, c'est notre sujet aujourd'hui. L'anthropologue Emmanuel Panier et l'économiste Étienne Espagne sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Cassandre Puel avec l'aide de Denis Forger et mise en onde par Florent Bujon. Continuons à parler du miracle économique vietnamien, le Vietnam, un pays en pleine croissance qui est aussi miné par la corruption.
Nous avons testé de nombreux membres du comité central et mis beaucoup de monde du politburo en prison. Et lorsque leurs biens ont été confisqués, je n'arrivais pas à imaginer qu'il s'agissait de millions de dollars, de milliards et de milliards de dong vietnamiens, de tellement d'argent. Donc je le dis, nous n'allons pas arrêter cette campagne anticorruption. Nous ne nous reposerons pas, et qu'importe qui ils sont, aucune exception ne sera faite. La répression de la corruption n'est pas destinée à purger certains individus ou à se venger, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Cela a été fait avec pitié et humanité. Je me souviens de quelqu'un citant le président Ho Chi Minh en disant « Couper une branche pourrie pour sauver l'arbre entier ».
Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, dans un discours du 1er février 2021, pour rassurer les investisseurs étrangers, Hanoï a lancé en 2016 une campagne anticorruption intitulée « Fournaise ardente ». C'est une purge qui a fait tomber jusqu'au président vietnamien, Étienne Espagne.
Alors oui, effectivement, il y a deux présidents qui ont démissionné pour... fait de corruption durant les deux dernières années. Et puis cette campagne Fournaise ardente que vous citez, qui affecte bien au-delà des membres haut placés du parti, mais aussi les fonctionnaires, etc. Alors je pense que Emmanuel aura des explications bien plus anthropologiques de cette question de la corruption. Ce qu'on peut juste mentionner, c'est qu'évidemment, c'est un mélange questions politiques à ce haut niveau-là et de questions, effectivement, de problèmes de corruption. Les fonctionnaires vietnamiens ont aussi structurellement des salaires qui sont très faibles, qu'ils obligent à mener souvent plusieurs travails en même temps, et puis avoir recours à ce système d'enveloppe que mentionnait Emmanuel Panier. Donc il y a une stratégie du Vietnam qui vise à réduire sans doute le nombre de fonctionnaires au service de l'État, du gouvernement, à mieux les payer. Mais c'est un processus qui prend du temps, qui est difficile et qui est loin d'être d'être achevée.
C'est une campagne anticorruption qui nous rappelle celle qui avait été lancée en Chine par Xi Jinping contre ce qu'il appelait les tigres et les mouches. Et la semaine dernière, l'ancienne mania de l'immobilier vietnamienne Trung Mai Lan a été reconnue coupable de détournement de fonds massifs. Elle a été condamnée à la peine capitale. Il y a aujourd'hui une tolérance zéro à l'égard d'un phénomène qui, comme vous commencez à nous le dire, Emmanuel Panier, peut aussi être associé à un système informel de dons et de dettes qui ressemble à de la corruption sans en être tout à fait.
Oui, oui. Alors là, c'est compliqué parce qu'il faudrait vraiment faire des distinctions entre les cas de corruption que vous évoquez sont quand même des cas dans la haute administration, les hauts responsables politiques. Hein, on est au niveau de l'élite, de grands responsables de groupes ou d'entreprises commerciales, de banques, etc. Qui peut-être pas le même niveau ni les mêmes modalités, notamment sociales, que la petite corruption quotidienne. Qu'on peut aussi voir au Vietnam. Hein. Bon, là, vous avez évoqué donc quand même deux présidents alors Étienne Espagne a dit qu'ils ont été destitués pour cause de corruption. Alors, évidemment, on s'est présenté de manière un peu plus complexe que ça parce que ils se sont retirés en disant qu'il y a eu de la corruption dans des affaires et que eux, en tant que responsables, il est de leur devoir d'assumer ça. Hein. Donc c'est pas directement, ils sont pas directement accusés.
On et de ne pas risquer d'entacher l'image du parti.
Tout à fait. Et puis même qu'en faisant ce geste-là, ça montre que c'est l'image du parti. Dès qu'on est responsable de quelqu'un qui fait de la corruption, nous-mêmes, on est responsable. On a aussi des vice-premiers ministres, hein, le ministre de la Santé et des Affaires étrangères, hein, qui ont dû quitter leurs fonctions suite à des scandales de corruption liés notamment à la surfacturation de tests de dépistage de coronavirus. Un autre lié à la surfacturation de citoyens vietnamiens à l'étranger qui revenaient au Vietnam. Donc là, ça fait vraiment des scandales qui ont marqué le pays et que donc ces gestes de destitution de hauts dirigeants permettent effectivement de montrer qu'il y a une intolérance sur ce degré-là, mais ça ne veut pas dire que même la campagne actuelle, là, de fournaise ardente, on peut se demander en fait s'il y a vraiment une politique de lutte systématique contre la corruption à tous les niveaux. Mais aussi, il y a certains commentateurs qui parlent de guerre intestine au sein des factions du parti, certains qui sont plutôt pro-chinois, certains plutôt conservateurs, certains plutôt tournés vers les États-Unis, certains qui favorisent l'efficacité des institutions.
Oui, sont aussi des luttes politiques comme ce que l'on a constaté du côté de la Chine.
Voilà, alors c'est très difficile, en fait, à savoir exactement ce qui se passe. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a quand même une réelle volonté d'assainir les choses. Mais derrière, en fait, comme je commençais à le dire, c'est que il y a derrière le capitalisme, derrière le communisme, il y a aussi ces réseaux d'obligations, ces réseaux de clientélisme, de patronage. Et donc, quand quelqu'un a une fonction importante, il n'est pas arrivé là n'importe comment. Et derrière lui, il a des gens qui protègent. Et tout ce système-là fait que il y a différentes factions avec différentes équipes. Et que donc, quand il y en a un qui tombe, et ben au-dessus, en dessous, ça peut tomber aussi. Et là, on voit tous ces rapports interpersonnels qui sont au sein du parti, au sein du gouvernement, qui rentrent en jeu dans ces affaires de corruption. Voilà. Après, on peut venir peut-être sur quoi vous m'avez lancé, à savoir dans quelle mesure la corruption est liée à des systèmes de dons, de dettes et d'obligations plus locaux, plus endogènes à la société vietnamienne. Voilà.
France Culture. Entendez-vous l'écho. Tiffaine de Roquigny.
Depuis 1986, mis à part la période du Covid et la crise économique de 1999, le PIB vietnamien n'est jamais descendu en dessous de la barre des 5%. Avec une telle croissance économique, la pauvreté a considérablement reculé dans le pays, Étienne Espagne.
Oui, alors au début du Doi Moi dont on parlait au début d'émission, c'est assez difficile d'ailleurs d'évaluer le PIB à ce moment-là, mais il était entre 200 et 300 dollars par an, par habitant. Et il est passé aujourd'hui plus de 4000 dollars par habitant. L'extrême pauvreté touchait 45% de la population, au début des années 90. Elle a été à peu près éradiquée aujourd'hui. Et puis, on l'a évoqué en pointillé aussi, l'éducation, la santé sont à haut niveau aujourd'hui au Vietnam, et le tout dans un cadre de chômage formel, en tout cas, très réduit, très faible.
Mais pour autant, est-ce que cette croissance n'a pas creusé les inégalités, même si l'on compare le Vietnam à d'autres pays, ces inégalités sont sans doute assez modérées, Emmanuel Panier ?
Alors, effectivement, hein, souvent les économistes qui documentent et analysent le système, la croissance et la réussite du Vietnam rappellent que derrière les chiffres à la fois de croissance élevée et de pauvreté qui réduisent, il y a un autre côté qui est l'augmentation claire et criante des inégalités. Alors, et ces inégalités, elles se voient vraiment à tous les niveaux. On peut l'observer ne serait-ce qu'en ville, quand on voit les voitures. Moi, quand je suis arrivé au Vietnam dans les années 2005, il y avait très peu de voitures. Les motobikes, donc des espèces de petites mobilettes, étaient vraiment développées. Il y avait remplacé les vélos. Aujourd'hui, on voit beaucoup de grosses voitures. On voit même des voitures de type Porsche, etc., qui circulent dans la ville. Sachant que pour acheter une voiture au Vietnam, les taux d'importation sont tellement élevés que c'est beaucoup plus cher que dans nos pays à nous. Donc on voit ça d'un côté. Et de l'autre côté, on a toute cette population urbaine, mais aussi rurale, qui vit en ville de manière saisonnière ou de manière plus longue, qui travaille dans des chantiers, qui travaille dans des usines, dans des industries. Et on a déjà cette inégalité au sein de la ville qui est vraiment marquante. Ensuite, il y a quand même entre la ville et la campagne, on peut voir que là, si on rentre dans le détail des taux de pauvreté, des taux de croissance, on n'est pas. Il y a aussi des inégalités importantes. Et le troisième degré, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les minorités ethniques, qui, selon les chiffres officiels de la Banque mondiale, font partie donc des populations les plus pauvres. Hein. Donc ça, c'est toujours des calculs économiques en termes de revenus. Mais c'est vrai que quand on va dans les zones reculées, montagneuses, où les gens vivent avec un degré de semi-subsistance, de production d'une partie de ce qu'ils consomment, mais qui ont quand même besoin d'argent pour tout un tas de consommation, hein, que ce soit acheter une motobike, mais aussi acheter des semences pour planter du riz, pour pouvoir payer aussi l'école, etc. Donc ils sont de plus en plus insérés dans le marché, donc ils ont besoin d'argent, mais ils n'ont pas forcément autant de revenus. Et donc là, on peut voir aussi des inégalités assez importantes entre l'ethnie majoritaire, les Kings, et notamment les urbains, et les populations d'autres groupes ethniques, notamment dans les zones montagneuses, où les conditions de vie sont pas les mêmes, bien que leur degré d'autonomie et les réseaux d'entraide que j'évoquais fait qu'effectivement, contrairement à des pays, je sais pas, comme Madagascar ou certains pays en Afrique, on n'est pas dans une misère, une pauvreté extrême. Il y a pas de famine. Donc les gens ont quand même accès à la terre. Les gens ont des réseaux de relations qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Il faut quand même rappeler ça.
On peut dire aussi
un dernier élément sur la pauvreté que je trouve intéressant à souligner, c'est qu'on peut effectivement citer des chiffres. Hein. Étienne a évoqué les pourcentages de réduction de la pauvreté. Hein. Moi, là, j'avais relevé des chiffres dans les années 80, donc justement avant le Doi Moi, on était à 75% de population pauvre au milieu des années 80, 37% en 98. Aujourd'hui, on dit environ 5%. Mais moi, quand je vis dans les villages, je vois comment sont calculés le nombre de pauvres dans les villages. Et donc, il y a des recensements précis faits dans chaque foyer en fonction de ce qu'ils gagnent, mais aussi de ce qu'ils ont comme maison, comme télé, etc. Mais il y a, en fait, chaque commune doit atteindre un plan de réduction de la pauvreté. Et donc, il y a quasiment un pourcentage de pauvres qui doit être défini. Et donc, localement, en fait, les pauvres qui se déclarent pauvres et qui peuvent bénéficier de politiques de soutien tournent. Donc, on a des chiffres qui indiquent des taux de pauvreté, mais qui ne sont pas forcément fidèles à la réalité, puisqu'on va dire, cette année, c'est tel foyer qui est classé pauvre. Comme ça, sur les rapports, on correspond au plan et ils peuvent toucher les aides. Et l'année prochaine, ça sera les autres. Voilà, il faut aussi prendre en compte ça derrière les pourcentages souvent cités.
Et prendre du coup les chiffres avec précaution, tout comme les chiffres du chômage, Emmanuel Panier, qui sont très bas au Vietnam, mais parce qu'il y a beaucoup d'emplois informels.
Oui, alors c'est vrai que l'informel, l'Institut de recherche pour le développement avait mené, hein, des collègues économistes, une étude sur la place et l'importance de l'informel au Vietnam. Et effectivement, hein, l'informel occupe une place très très importante et permet à une grande partie des foyers de vivre. Alors l'informel, comment ça peut se traduire? C'est autant tous les petits commerces de rue, les vendeurs de pho, de buncha, de nourriture dans la rue. C'est aussi, j'évoquais tout à l'heure, tous ces gens qui travaillent dans le bâtiment. Une grande partie des agriculteurs sont dans l'informel. Et effectivement, ils ont des ressources, ils ont des moyens de subsistance. Par contre, il n'y a pas de protection sociale. Il y a une grande incertitude aussi sur leur stabilité économique. Beaucoup de mobilité, beaucoup de diversification. Hein. Souvent, un rural travaille en ville dans l'informel, mais garde ses rizières et ses parcelles à la campagne. Et par exemple, le Covid était assez marquant à ce moment-là, puisqu'une grande partie de l'informel ne pouvait plus fonctionner. Tous ces commerces de rue, tous ces migrants qui travaillent dans les constructions, les bâtiments, ne pouvaient plus travailler. Alors, ils ont pu se replier sur ce qu'ils avaient à la campagne et leur réseau d'entraide. Mais là, on a vu qu'effectivement, l'économie vietnamienne a pris un coup quand l'informel ne peut plus fonctionner comme ça fonctionne actuellement.
La croissance vietnamienne est spectaculaire, mais elle a évidemment des limites. Et notamment, c'est une croissance, on a commencé à le dire, qui se fait au détriment de l'environnement et qui menace notamment aujourd'hui, Étienne Espagne, le delta du Mékong au sud du pays, qui est vraiment le grenier à riz du Vietnam.
Oui, oui. Alors le Mékong, évidemment, c'est cette région qui produit 50% du riz du Vietnam, 65% des biens de l'aquaculture, 70% des fruits. C'est beaucoup de... Beaucoup de cette production est exportée, donc génère des revenus très importants pour le pays. Et la croissance rapide a évidemment affecté clairement différentes composantes de l'environnement. Dans le Mékong en particulier, un des problèmes clés, c'est cette dynamique de subsidence du delta. Donc c'est quoi la subsidence? C'est que le delta est sur une terre meuble qui s'affaisse progressivement.
De plusieurs centimètres par an.
C'est un régime qui est naturel en soi, mais qui est accéléré extrêmement fortement par différents facteurs qui, eux, ne sont pas naturels. L'un de ceux-là, c'est le pompage des eaux souterraines. Donc, il y a des eaux profondes qui sont utilisées par l'agriculture du delta pour irriguer le riz, l'aquaculture, etc., les arbres fruitiers. Et ce pompage massif, ça accélère l'affaissement du delta. Il y a évidemment aussi toutes les constructions, les grosses infrastructures qui sont arrivées pendant les 10 dernières années, qui viennent aussi tasser encore davantage. Puis enfin, il y a tous les barrages en amont du Mékong, qui sont souvent des barrages qui ne sont pas au Vietnam d'ailleurs, hein, dans les pays amont, et qui vont limiter l'apport naturel de sédiments, qui compense en partie cette dynamique de subsidence. Et donc tous ces facteurs, ça fait qu'on a un delta qui s'affaisse à grande vitesse, plusieurs centimètres par an, vous l'avez dit. Et cette dynamique-là, elle est très grave potentiellement, puisque à nouveau, la hauteur moyenne du delta, c'est 80 centimètres. Donc si vous faites plusieurs centimètres par an, on a un delta qui est sous l'eau entre la moitié du siècle et la fin du siècle. À ça, évidemment, s'ajoute le changement climatique qui va rajouter... Une dynamique à ça, avec la hausse du niveau marin.
Oui, et puis le pays est exposé au-delà des inondations, aux typhons, puis on l'a dit, à l'érosion des sols. Dans ce contexte, le Vietnam n'avait peut-être pas d'autre choix que d'accélérer sa transition écologique.
Dans le passé, notre quotidien n'était pas agréable ici. Grâce à ces panneaux solaires, notre vie a complètement changé. Des changements sont intervenus au niveau des conditions économiques. Nos routes sont éclairées par des lampadaires.
Dans un passé récent, il n'y avait pas de machines. On devait donc brûler la paille. Désormais, on est bien équipé. On peut produire un engrais bio et gagner de l'argent. L'utilisation différente de la paille peut être bénéfique pour l'environnement. De nombreux riziculteurs et agriculteurs soutiennent ces nouvelles méthodes.
Le projet de coopérative et l'État ont créé des conditions favorables pour que je cultive des arbres fruitiers et que j'élève des abeilles. Cela a contribué à augmenter mon revenu familial. Je trouve que vendre des produits par le biais des coopératives est plus avantageux pour tout le monde. Actuellement, la coopérative vend du miel et du thé Jiaololam. Ceci est mon miel, produit dans mon village. Ce miel est aussi naturel que le miel sauvage. La qualité est également très élevée.
Voilà un reportage de TV5 Monde de 2022 face aux risques environnementaux. Le Vietnam a décidé d'accélérer sa transition vers une agriculture verte, Étienne Espagne.
Oui, alors, on a parlé du delta du Mékong, on a parlé de la subsidence du delta. Effectivement, les agriculteurs ensuite sont eux-mêmes directement impactés par l'érosion qui a été mentionnée, l'érosion fluviale, l'érosion côtière, et par la salinisation aussi des sols. Donc face à ça, il y a plusieurs types de réactions. Dans le reportage, on entend certaines évolutions de pratiques, etc. Donc il y a la question effectivement de l'évolution de comment on produit le riz, est-ce que c'est combien de cycles par an on va autoriser pour le riz, pour éviter l'épuisement des sols, pour éviter d'utiliser trop d'eau d'irrigation, mais aussi quelles semences on va pouvoir utiliser pour résister à cette salinisation. Donc tout ce débat touche l'agriculture, mais il touche en réalité aussi tous les autres secteurs. On entendait dans votre reportage quelqu'un bénéficier des revenus de l'énergie solaire. Le Vietnam, c'est un des pays où il y a la plus forte croissance au monde de l'installation de panneaux photovoltaïques.
Et oui, donc parce que les ambitions sont là. Le Vietnam s'est fixé comme objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050, Étienne Espagne. Donc effectivement, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre pour essayer d'atteindre cet objectif.
Alors c'était effectivement une annonce assez forte et surprenante qui a eu lieu à la COP26, donc à Glasgow, en 2021. Le Vietnam annonce que il vise une neutralité carbone, c'est-à-dire que à l'échelle du pays, il émettra autant d'émissions qu'il pourra en absorber. Donc en gros, il faut une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre de la part du pays d'ici à 2050. Et alors pourquoi cette annonce très ambitieuse alors que encore quelques mois avant et je participais à des discussions avec des ministères, c'était quelque chose qui était très très peu audible de cette idée d'accélérer la transition, de sortir du charbon, etc.
Il y avait même des répressions de militants écologistes au Vietnam.
Tout à fait. Donc il y a deux facteurs explicatifs. À nouveau, encore une fois, c'est le facteur externe sans doute prépondérant, c'est-à-dire que le Vietnam s'est aperçu qu'il ne pourrait pas continuer dépendre du charbon très longtemps, dans la mesure où tous les investissements qui venaient jusque-là de la Chine, de la Corée, du Japon ou même de l'Australie pour investir dans des centrales à charbon au Vietnam s'étaient arrêtés. Donc il y a eu un tarissement en fait du financement. Donc du coup, c'est le Vietnam avec ce pragmatisme de la diplomatie des bambous qui caractérise, a transformé ce problème en opportunité en affichant une ambition très forte sur la scène climatique internationale.
Qu'est-ce que c'est que cela, la diplomatie des bambous ?
Ben c'est cette diplomatie pragmatique, flexible, comme le bambou, qui caractérise le Vietnam dans les 10-20 dernières années, avec cette insertion très intelligente dans les dynamiques de la globalisation.
Pragmatisme et souplesse du Vietnam, en effet. Alors, on arrive presque au terme de cette discussion. Quels sont les prochains défis que devra relever le Vietnam ? Est-ce qu'il va, comme la Chine, tenter de réduire sa dépendance au marché extérieur en stimulant sa consommation intérieure ? Vous avez rappelé, il s'agit d'un marché intérieur de 100 millions de personnes, Étienne Espagne.
Alors, le Vietnam, effectivement, n'est pas au niveau de développement économique de la Chine. Donc les questions sont pas encore tout à fait les mêmes. Mais je résumerais ça en disant qu'il aurait deux pièges à éviter. Le premier piège, c'est le piège des pays à revenus intermédiaires. Comment ne pas rester bloqué à ce niveau d'intégration dans les chaînes de valeur et parvenir à diversifier davantage son économie, à maîtriser de manière endogène les nouveaux secteurs émergents. Et puis, l'autre piège, c'est le piège que je qualifie de le piège de la mi-transition. C'est-à-dire, le Vietnam, on l'a dit, est très fortement exposé au changement climatique. Il a de fortes ambitions sur une décarbonisation accélérée de son économie. Mais ça peut créer des instabilités, y compris au niveau politique, dans la mesure où la neutralité carbone, c'est un changement structurel d'ampleur, avec des impacts sociaux, qu'il faut parvenir à gérer.
Emmanuel Panier, un mot de conclusion sur les défis qui attendent le Vietnam ?
Oui, bah vous évoquiez la question environnementale et climatique, et c'est vrai que il y a quand même des discours et effectivement des actions qui sont menées vers une transition énergétique, mais il faut aussi voir que de l'autre côté, c'est le côté pragmatique qui était évoqué par Étienne Espagne tout à l'heure. De l'autre côté, il y a beaucoup d'aéroports qui sont construits, des autoroutes, la dépendance au pétrole, au charbon reste très forte, et là-dessus, il n'y a pas non plus de réduction ou de transition structurelle sur un modèle de croissance fondé sur les énergies fossiles et donc, à mon avis, là-dessus, il y a un défi important. Et vous aviez notamment évoqué certains responsables d'ONG environnementales qui ont été fortement réprimés. Et ça va peut-être à l'encontre des déclarations officielles. Mais ça montre que c'est pas si simple et que ceux qui essayent de mettre au jour ces contradictions entre une croissance dépendante des énergies fossiles fortes et une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une transition énergétique, bah, ces personnes-là, il y a d'autres lobbies qui doivent fonctionner. Ces personnes-là n'ont pas le droit de le dire. Donc je pense que les enjeux environnementaux vont être vraiment très importants dans les années à venir, notamment, comme l'a dit Étienne Espagne, parce que le Vietnam est un pays très vulnérable. Et c'est vrai que moi qui travaille dans des zones reculées où des gens subissent des inondations, des typhons, des périodes de sécheresse, je me rends compte à la fois de la vulnérabilité, mais aussi de leur capacité de résilience locale, et notamment en appui avec l'État et pas que, où on voit que la capacité de produire localement une grande partie de ce qu'ils consomment et d'avoir un certain degré finalement d'indépendance par rapport au marché globalisé permet que ces paysans des zones reculées puissent se remettre et faire face à des chocs environnementaux, climatiques importants, mais aussi à des incertitudes liées au marché globalisé avec des fluctuations des prix sur les marchés et qui impactent les villages. Mais cette capacité à avoir une agriculture locale diversifiée et ce degré d'autosubsistance relatif, à mon avis, est un enjeu à prendre en compte et à soutenir pour les années à venir au Vietnam. Et
on continuera évidemment à regarder de près ce qui se passe du côté du Vietnam dans les prochaines années. Merci beaucoup Étienne Espagne et Emmanuel Panier de nous avoir éclairé sur ces enjeux économiques. Étienne Espagne, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage écrit avec Michel Aglietta pour une écologie politique au-delà du capital océan qui est paru chez Odile Jacob en février dernier. Et Emmanuel Panier, je rappelle que vous êtes anthropologue à l'Institut de Recherche pour le Développement. Un grand, grand merci encore à tous les deux.
I will see back your love.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à toutes et tous d'avoir été à l'écoute. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, Door to Door, le nouveau single du chanteur anglais Fontana Rosa. Demain, Corée du Nord, Planifier la pauvreté. Nous serons en compagnie de Théo Clément et Marion Prudhomme. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Bye.